Je dis toujours que nous sommes au temple de la foi. Nous sommes à un endroit où les choses qui étaient décrétées impossibles deviennent possibles. Est-ce que ça va? Donc, c'est un endroit de possibilité. Je ne crois pas à l'impossibilité. La raison pour laquelle je sers Dieu est que je suis prêt à annoncer sa parole partout où je suis sollicité, c'est parce qu'il m'a démontré qu'il était un Dieu vivant. Amen. Si Dieu ne peut pas faire pour toi ce que la médecine ne peut pas faire, alors nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu que j'adore est capable de faire au-delà de ce que j'imagine et au-delà de ce que je pense. Et je voudrais que tu croies ce matin que le miracle de Dieu n'est pas simplement un miracle de la guérison de ton corps. Dieu peut guérir et restaurer ton esprit. Dieu est capable de restaurer ton âme aussi. Ok, Dieu est capable de te donner, de provoquer un miracle pour ta destinée. Il faut croire en Dieu pour le meilleur. Ton travail, te donner le meilleur travail pour faire prospérer tes affaires, parce que le miracle, c'est pas simplement physique. Il y a aussi le miracle de la provision de Dieu. Je crois que Dieu n'a pas de limite. Il se limite là où nous le limitons. Et je crois que ce matin, dis à ton voisin, pas de limite.
Pas de limite.
Dis-le encore avec foi, pas de limite. Alléluia. Nous avons commencé une série qui prend fin aujourd'hui intitulée « Vaincre la peur ». Et nous avons défini la peur comme un sentiment de forte inquiétude, d'alarme, en puissance ou en la présence d'un danger ou d'une menace. Une forte inquiétude, une alarme qu'on a en présence ou en pensée d'un danger ou d'une menace. Et nous avons dit dimanche passé que beaucoup de personnes sont justement captives par la puissance de la peur, et cette captivité les empêche de jouir ou d'entrer en possession des avoirs que Dieu a pour eux. C'est une chose vraiment triste de constater que même dans le corps de Christ, beaucoup d'enfants de Dieu ne jouissent pas des promesses que l'Éternel, leur Dieu, a pour eux. Et qu'à côté, des personnes même qui n'adorent pas Dieu semblent jouir de l'héritage que Dieu a pour eux, mieux que ceux qui viennent à l'église. Et ça, c'est un problème que nous devons apprendre à résoudre par l'assistance de la parole de Dieu. Et nous avons dit que tous les mots dérivés comme inquiétude, comme crainte, comme anxiété, comme angoisse, comme frayeur, comme stress, proviennent d'une racine centrale qui est appelée la peur. Et donc la peur est une puissance qui amène à manifestation dans la vie de celui qui l'a les promesses que l'enfer a pour cette personne. De la même manière que Dieu a des promesses pour nous, le diable a des promesses pour nous. Le diable a un plan à l'égard des hommes et Dieu a un plan à l'égard des hommes. Et la Bible dit dans Jean 10:10, le chapitre, ou alors le verset qui résume bien, n'est-ce pas, cette grande opposition, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Donc, Jésus est venu afin que toi tu aies la vie et que tu aies la vie avec abondance. Nous avons dit que chaque fois que nous exprimons le sentiment de la peur et que la peur prend la domination sur notre être, c'est une autre façon pour nous d'avouer que nous croyons plus en la puissance de Satan qu'en celle de Dieu. Alors donc, quelque part, donc la peur amène à manifestation dans ta vie les choses que tu n'as pas envie de voir. Ce que tu n'as pas envie de voir, ce que tu redoutes, la peur amène cette chose à manifestation. Une femme qui n'a pas de mari et qui développe la peur de ne pas se marier verra qu'elle n'aura pas de mari, elle restera dans le célibat parce que la peur qu'elle a développée amène à manifestation ce qu'elle n'a pas envie de voir. Quelqu'un qui a peur de faire faillite et qui développe le sentiment de peur va se rendre compte que plus tard il fera faillite parce que la peur amène à manifestation la chose que tu n'as pas envie de voir. Nous avons parlé de Job qui avait peur et qui lui a mené ses enfants continuellement les sanctifier devant l'Éternel quand ils sortaient pour une fête. Et quand le diable est allé devant Dieu, la première des choses que le diable a fait quand il a parlé à Dieu concernant Job, il a parlé à Dieu en disant, cet homme, il te sert parce que tu l'as béni. Si tu enlèves les bénédictions, cet homme ne te servira plus. Et plus tard, les craintes de Job sont arrivées en manifestation dans sa vie parce qu'il a perdu ses enfants. Donc, faisons très attention. De la même manière que la foi nous connecte à Dieu et amène en manifestation les promesses de Dieu, alors la peur amène en manifestation les promesses de Satan à notre égard. Gloire à Dieu, je suis affranchi n'est-ce pas, de toute promesse de Satan. J'ai une alliance avec Dieu et le diable n'a aucune alliance avec moi. Donc, par conséquent, aucune promesse de Satan n'arrive en manifestation dans ma vie. Parce que je ne crois pas en Satan, je ne crois pas en sa puissance, je crois en Dieu et je crois en la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons dit que marcher par la foi ou alors vaincre la peur est un choix. Nous choisissons. Dieu n'a pas fait de nous des robots entre ses mains. Une des plus grosses bêtises que nous pensons et que nous entretenons dans notre façon d'adorer Dieu, c'est de croire que tout ce qui arrive dans notre vie est la volonté de Dieu. Nous avons vu les gens dire, oh, si c'est venu, c'est que Dieu a permis. Non, il y a des choses qui arrivent parce que toi tu as permis par la peur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a rien de mauvais que Dieu permettra, qui arrivera dans ta vie, jamais. Parce que Dieu a des pensées pour toi, des pensées de paix et non de malheur, des pensées de bonheur et de prospérité. Donc Dieu n'a jamais planifié le mal à l'égard de la créature qu'il a faite à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je continue en disant ceci. Je voudrais ajouter, disons, qu'il y a deux lois spirituelles qui gouvernent ce monde ou qui régissent ces deux oppositions majeures. Deux lois spirituelles qui régissent et qui gouvernent ce monde ou alors qui expliquent au mieux les deux grandes oppositions. L'opposition de la puissance de Satan, du monde de Satan, à celle de la puissance de Dieu et du monde de Dieu. L'opposition entre les ténèbres et la lumière, entre la vie et la mort. Donc, il y a deux lois. La Bible dit dans Romains 8, verset 2, je vais aller de Romains 8, verset 2, n'est-ce pas? On peut commencer à partir du verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Car, ok, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il existe deux lois, n'est-ce pas, qui gouvernent le monde dans lequel nous vivons. Et ces lois ont donc de l'influence dans nos vies. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors la loi qui opère dans nos vies, c'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus. La loi de l'Esprit de vie en Jésus, selon Romains 8, verset 2. Et si nous n'avons pas accepté Jésus, quelle est donc la loi qui opère dans nos vies? La loi du péché et de la mort. Alors, suivez-moi attentivement. Vous voyez, souvent, nous traitons le péché dans la nouvelle alliance comme nous traitions par nos pères le péché dans l'ancienne alliance. Vous devez comprendre que Jésus, en mourant sur la croix, la Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Ok? Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations en les livrant publiquement en spectacle. Donc, nous, suivez-moi bien, Jésus en mourant sur la croix, nous a réglé le problème du péché. Parce qu'il a versé son sang sur la croix afin que nos péchés et nos fautes soient pardonnés. Alors, je te pose une question. Est-ce que Jésus a pardonné tes péchés du passé et a refusé de pardonner tes péchés du présent? Hein, il a pardonné quel péché? Les péchés du passé et du... Est-ce qu'il a réussi à régler le problème du péché dans le futur? Est-ce qu'il a réglé tes péchés futurs? Est-ce qu'il a pardonné les fautes que tu commettras? Je réponds-moi, est-ce qu'il a pardonné les fautes que tu vas commettre? Oui, il a pardonné tes fautes dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est pour ça que quand il mourait, il a trouvé juste de proclamer « Tout est accompli ». Est-ce que tu me comprends? Donc, Jésus a payé le prix pour tes péchés. Une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il règle la question du péché à ton égard, il te transporte de la loi, du péché et de la mort, et t'amène maintenant là où opère la loi de l'Esprit et vit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. Maintenant, une fois que tu es transporté là où opère la loi de l'esprit de vie en Jésus, tu es transporté dans ce que nous appelons le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Tu es transporté, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Maintenant, suis-moi attentivement. Le fait d'être transporté dans le royaume des cieux ne veut pas dire que dans ce royaume-là, tu deviens parfait d'un coup. Non, tu restes la même personne, mais qui n'est plus influencée par la même loi. Il y a une autre loi qui recommence à influencer ta vie. Et s'il arrive que tu commets un péché, étant dans ce royaume, la Bible dit, si nous commettons un péché et nous demandons pardon, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Suis-moi attentivement. Viens, Joseph. Il n'est pas né de nouveau. Il est de ce côté. Je parle de l'évangile et il accepte Jésus. Avant, il était sous l'influence de la loi du péché et de la mort. Et cette influence créait en lui la peur, l'insécurité. Il n'avait pas d'assistance et de protection de la part de Dieu. Il bâtit donc une alliance en acceptant Jésus. Il est transporté de la loi du péché et de la mort. Et maintenant, il vient là où opère la loi de l'esprit et vit en Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, même si il arrive que cet homme qui a accepté le Seigneur commet une erreur ou commet un péché, la loi du péché et de la mort ne s'applique plus sur lui parce qu'il n'est plus sous l'influence de la loi du péché et de la mort. Il a été transporté sous l'influence de la loi de l'esprit et vit en Jésus. Alors, quand on ne comprend pas ça, on commence à développer la culpabilité. Non. L'apôtre Paul dit, ce que hier je considérais comme un gain, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant, influencé par l'esprit de vie en Jésus, il devient quelqu'un de totalement différent. Bon, même s'il il arrive qu'il commette une erreur, il ne devra pas permettre à la peur d'influencer son être, mais il devra permettre à la foi de gouverner sa vie et non la peur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Alors, quelqu'un qui est sous cette loi, quand il commet une erreur, la foi dit, je vais vers Dieu et je demande pardon à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La peur dit, je m'éloigne de Dieu, je me cache, je fais mes vêtements parce que Dieu va me punir. L'amour dit, non, si j'ai commis une faute, je suis sincère et transparent avec mon Dieu, je lui avoue ma faute et comme Jésus a payé le prix, le sang d'homme me lave et me purifie et je reste là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? Vous comprenez donc que quand on n'a pas compris la profondeur de cet enseignement, beaucoup de personnes se laissent manipuler par les puissances ennemies, ok? Par les dogmes et par les mensonges de la religion. Alors, c'était donc juste pour dire que je suis enfant de Dieu. Le diable n'a rien à voir avec ce qui me concerne. Vous imaginez mon enfant dans ma maison, qui est mon enfant, même s'il a commis un problème chez moi. C'est pas mon voisin de venir le punir dans ma maison. Ou à mon voisin de venir lui dire ce qui. Non, c'est mon enfant. Et généralement, parce que tu aimes l'enfant, souvent même, tu protèges l'enfant. De telle enseigne que même les voisins d'à côté ne sont pas au courant du mauvais comportement de ton enfant. Pourquoi? Parce que l'amour protège. L'amour couvre. Est-ce que vous me comprenez? L'amour n'expose pas. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Très bien. Alors, vous voyez. Si nous comprenons ça, alors ça devient facile de pouvoir vaincre la peur. Parce que la peur prend sa racine de l'ignorance. Quand on est ignorant, le diable prend avantage. Elle prend sa racine de l'ignorance. Et puis suivez-moi bien. Je parle de comment est-ce que la peur agit. Vous savez, tu as peur pourquoi? Si on t'annonce par exemple qu'il y aura un tremblement de terre qui va secouer le monde dans 7 jours. Et tu as entendu la nouvelle, les scientifiques ont donné leur verdict dans 7 jours, 7 jours auront un tremblement de terre mondial. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ça commence à créer en toi une peur. Et donc cette parole que tu as entendue va commencer à agir au niveau de tes pensées. Tu vas à la maison, tu te couches la nuit, tu te rappelles, il y aura un tremblement de terre dans 7 jours. Il y aura un tremblement de terre dans 7 jours. Mais même si l'information est fausse, elle commence à gouverner tes pensées. Vous vous rappelez, en l'an 2000, l'histoire du bug, où tout le monde se disait, tous les ordinateurs vont perdre toutes les informations. Comment est-ce que le monde entier était sous une panique générale d'une information qui n'était pas vraie, qui n'était pas vérifiée. Des gens ont gagné beaucoup d'argent dans les spéculations par cette information. D'autres en ont perdu. D'autres ont décidé même de ne pas prendre des actions parce qu'il y avait cette information qui avait été donnée. Donc la peur agit, n'est-ce pas, par les informations que nous recevons. Et donc ces informations attaquent nos pensées. 2 Corinthiens 5, verset 10. Suivez la Bible dit.
2 Corinthiens 5, verset 10.
Ok.
Parole du Seigneur. Car il nous faut tous connaître devant le tribunal de
allons-y,
Christ.
Allons-y dans 2 Corinthiens 10, verset 5, s'il vous plaît. C'est 2 Corinthiens 10, verset 5. 10, verset 5.
Et celui qui nous a formés.
2 Corinthiens 10, verset 5.
Verset 5 à 10.
Ouais. 10, 5. Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous nous levons contre toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Reprends 2 Corinthiens 10, verset 5.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui
s'élève. Ok, vas-y un peu plus fort.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Très bien, nous renversons tout raisonnement. Tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des raisonnements qui nous empêchent, n'est-ce pas, de connaître Dieu. Qui nous empêchent de voir la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Nous nous levons contre tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant qu'être équilibré, en tant qu'homme spirituel marchant avec Dieu, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons la capacité de juger les pensées que nous recevons. C'est-à-dire que si, par exemple, je reçois une information qui me dit la situation économique du monde va connaître un chaos, cette pensée, quand elle arrive, le diable va s'appuyer dessus pour dire, ça veut dire que tu vas plus prospérer, ça veut dire que tu vas perdre de l'argent, et tu commences à entretenir cette pensée. Et cette pensée, donc, comme c'est une information que tu as reçue, qui annonce son danger, elle entretient la peur en toi qui commence à grandir. Alors, l'attitude que tu as, c'est que tu devras amener cette pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment est-ce que, en tant que chrétien, tu amènes la pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu te lèves et tu te poses à la pensée. Tu dis, je renonce à cette pensée mensongère. Parce que cette pensée n'est pas conforme à la parole. La Bible dit, Dieu nous amène à aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. 10 000 tomberont à ma gauche, 1 000 tomberont à ma droite, mais je ne serai point atteint. Donc en prenant autorité contre cette pensée, tu sèmes une autre pensée à l'intérieur de toi qui, elle, n'est-ce pas, détermine les actes que tu poses. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette maturité, celle de juger les pensées qu'ils ont. Il faut être à même de juger les pensées que nous avons. J'ai appris ceci avec Dieu. Celui qui sème une pensée récolte un acte. Si tu as entretenu une pensée, tu finis par poser l'acte qui correspond à la pensée que tu as eue. Parce que la pensée, quand tu l'entretiens, ça t'amène à poser un acte qui correspond à la pensée que tu as. Ça veut dire qu'on ne devient pas prostitué dans la rue juste en un jour. Ça commence par la pensée. On ne devient pas voleur en un jour. Ça commence par la pensée. On ne devient pas malfaiteur en un jour. On ne commet pas le péché en un jour. Ça commence par la pensée. Et tu as la capacité de neutraliser la pensée avant qu'elle n'arrive à l'acte. Est-ce que ça va? Donc, et c'est très très facile. Et même dans la rue, quand tu marches et qu'il y a une pensée qui arrive, ne te dis pas, je rentre chez moi pour prier. Prends autorité contre cette pensée. Par exemple, la pensée te dit, tes enfants n'iront pas à l'école, ils n'auront pas d'argent, tu ne pourras pas réussir ce projet. Prends autorité. Je lis cette pensée et je propulse dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Car la Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Il faut être à même de le dire. Et pour neutraliser la pensée qui arrive. Et c'est pour ça, quand tu ne le fais pas, que tu laisses germer en toi le découragement. Que le diable prend avantage. Vous savez, tu peux être loin. Tu peux avoir rencontré Dieu. Tu peux parler avec Dieu face à face. Et puis être influencé par la puissance ennemie. Pierre, homme rempli du Saint-Esprit, marchant, côtoyant Jésus tous les jours. Un jour, il dit à Jésus, non, toi là, non, mais tu n'iras pas à la croix. Non, tu ne pourras pas le faire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vous savez, et ce que Pierre disait était quand même logique, n'est-ce pas? Il disait à Jésus, tu ne vas pas souffrir pour eux, mais c'est quand même toi, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi,
Satan.
Arrière de moi,
Satan.
Il a dit, arrière de moi,
Satan.
Et ensuite, il a ajouté quoi? Car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. En quelque sorte, il a rappelé la loi que je viens de lire. La loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Chaque fois que tu as une pensée, soit elle est entretenue par le royaume de Dieu, soit elle est entretenue par le royaume des ténèbres. Alors à toi de te poser la question de savoir quelle est la loi spirituelle qui gouverne les pensées que j'entretiens.
Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour ça que je vais te dire, mon frère, le plus grand malheur que tu auras, c'est de chercher à être ce que les gens pensent que tu seras. Je dis jamais. Si tu laisses le soin aux gens de décider à ta place ce que tu deviendras, ils vont toujours penser à quelque chose d'inférieur à ce que Dieu a pour toi.
Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Et tout se joue au niveau des pensées, les pensées que nous avons. Nous les prenons souvent légèrement, mais elles déterminent. J'ai constaté, je suis arrivé à une dimension de prière. Je ne prie plus pour avoir de l'argent, je ne prie pas pour... Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je n'ai pas besoin de me lever pour dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger. Non, j'ai une telle révélation de la fidélité de Dieu que juste en pensant à quelque chose, le lendemain, la chose arrive, dans les jours qui suivent. Pour exemple, la chemise que je porte, elle est en blanc cassé, la couleur est rare. Depuis décembre, novembre, je cherchais cette chemise pour la porter avec un costume que j'ai commandé. Et je n'ai pas trouvé. Et j'ai commencé à penser, mais où est-ce que je peux l'avoir, cette chemise? Je suis arrivé en France, j'ai demandé à un pasteur qui me recevait, j'ai besoin de cette chemise parce que je vais la porter avec un costume particulier. Et je n'ai pas prié pour. Il m'a ramené la chemise qui était légèrement grande. J'ai dit, gloire à Dieu, hallelujah. Alors parce que j'ai appris une chose, tout ce que je reçois entre mes mains ne m'appartient pas. Je suis un canal. Il y a des choses, quand on me donne, je regarde autour de moi, je sais que ça appartient à quelqu'un. Ok, donc, j'ai dit, ok, gloire à Dieu. Je suis allé en Guadeloupe, et dans mon hôtel, une femme est venue avec la chemise à ma taille. Elle a apporté la chemise de même couleur. Elle dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te remettre cette chemise. J'ai commencé à sourire. Suivez-moi bien. Hier, ma maman m'appelle et me dit, j'ai une chemise pour toi. Il faut que tu viennes la chercher. Je m'en vais, c'est exactement celle que je porte, blanc cassé, qui semblait être rare. Mais ma pensée a tellement touché le ciel que les anges de Dieu se sont mis en marche pour apporter une provision à son serviteur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'en aucun moment, je n'entretiens la peur. Mon frère, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire aux gens, Dieu me bénira davantage. Je n'ai pas peur de dire, mon futur est meilleur. Je n'ai pas peur de dire, ce que je suis aujourd'hui est inférieur à ce que je serai. Je n'entretiens pas la peur, parce que je sais que la peur n'ajoutera rien à ma vie. Non, j'entretiens la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand tu entretiens des pensées qui vont en accord avec la parole, elles commencent à agir dans ton être. Et même au fond de toi, tu te rends, même scientifiquement, ce sera démontré. Parce que ce que ton corps va générer en ce moment est contraire à ce que quelqu'un qui est craintif et peureux génère dans son corps. Et il y a même des états de maladie que tu n'auras pas parce que tu es toujours joyeux, tu n'as pas de peur, tu n'as pas de crainte. Et ça agit sur tout ce que tu fais. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous ne devez pas permettre à la peur d'avoir son emprise dans vos membres. Vous pouvez commander et prendre autorité, vaincre la peur. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, selon de Timothée. Mais il nous a donné un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Est-ce que ça va? Donc, vous allez exactement ressembler aux pensées que vous entretenez. Et souvent, vous voyez, moi, j'observe, hein. Je prie pour les gens qui tombent sous l'onction. Je prie pour les gens qui parlent en langue, pour les guérisons physiques. Mais je vais vous dire une chose. Dieu m'a dit en 1994, j'étais sur le balcon de ma terre promise à l'époque, une petite chambre où j'avais même de la peine, hein, mais je l'appelais déjà Canaan parce que, vous comprenez, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Alors, vous savez, c'est souvent amusant quand tu n'es pas gouverné par la peur et que tu prends un bac à waro et qu'à l'intérieur, tu te comportes comme quelqu'un qui est conduit pour un chauffeur. Si tu gardes les pensées positives comme celle-là, tu te rendras compte que demain, un chauffeur te conduira.
Amen.
Pourquoi? Parce que vous ressemblez aux pensées que vous entretenez.
Amen.
On ressemble aux pensées qu'on entretient. Si tu entretiens les pensées de médiocrité et d'échec, tu connaîtras l'échec. On ressemble exactement aux pensées qu'on entretient. C'est pour ça que les gens sont surpris quand ils m'appellent. Oh, révérend, comment ça va? Qu'est-ce que je réponds? Super bien. Ceux qui m'appellent, super bien. Même quand j'ai mal à la tête, super bien. Même quand on m'annonce que, écoutez, les traders qui sont en train de travailler pour toi à la bourse ont perdu 15 000 dollars aujourd'hui, j'ai dit super bien. Parce que je sais qu'ils ont temps pour chaque chose. Je ne laisse aucune information m'abattre. À aucun moment, la peur ne devra pas avoir la victoire sur tes membres. Alléluia. Amen. Et c'est la meilleure façon de voir des choses extraordinaires se produire. Des miracles impensables. Frère, Dieu m'a dit, si tu veux changer un homme, en 1994, change sa façon de penser. Si tu peux changer le système de pensée d'un homme, tu auras changé cet homme.
Amen.
Et le problème que nous avons en Afrique, c'est une mentalité, ce sont des pensées de rivalité, de haine, de jalousie, d'envie, de meurtre, de pensées noires que nous avons. Notre problème, ce n'est pas la couleur de notre peau, mais la couleur des pensées que nous avons. C'est elles qui sont noires. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le problème qu'on a. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est très important de comprendre ça. Il faut le comprendre. Nous devons être libérés des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Gloire à Dieu pour la vie de mon frère. Gloire à Dieu pour la vie de ma sœur. Si demain Dieu peut te bénir au-delà de toute bénédiction que mes yeux ont vue, je me réjouirai avec toi. Amen. Parce que c'est important, c'est nécessaire d'avoir des pensées positives, des pensées bibliques, des pensées de Dieu à l'égard des autres. Maintenant, suivez-moi bien. Une fois que la pensée, comment est-ce que je sais qu'un homme a de mauvaises pensées? Vous savez, vous marchez avec un homme. Vous savez, ne me jugez pas simplement à partir de mes prêches. Mais quand vous me côtoyez, ce que je dis correspond exactement aux pensées que j'ai. Il y a des gens, ils prêchent et dès qu'ils descendent, ils parlent un langage qui est vraiment contraire à ce qu'ils ont dit. Non. Ça veut dire que la prêche ne venait que de leur mental, mais pas du cœur. Il faudrait suivre ceci. La Bible dit dans Matthieu 6, je crois verset 31, « Ne vous inquiétez pas du lendemain en disant. » Est-ce que ça va? « Ne vous inquiétez pas de votre lendemain en disant. » En quelque sorte, si nous allons dans la version parole vivante, je crois qu'il est dit, n'ayez pas peur de votre futur en 10 ans. Ça veut dire que quoi? La peur s'exprime par les paroles. Puisqu'il dit, n'ayez pas peur en 10 ans. Donc, en quelque sorte, quelqu'un qui dit des choses peut vous faire savoir s'il est gouverné par la peur ou gouverné par la foi. Moi, j'ai vu des gens, pour avoir des offrandes, il faut bien qu'ils aillent dire aux fidèles, oh, vous savez, je souffre, j'ai tel problème, les gens ne donnent pas bien des offrandes, les gens ne font pas ci. Critiquer quelqu'un d'autre pour avoir une offrande, ça c'est la peur. Mon frère, ça c'est la peur. J'ai vu, et c'est courant, j'ai vu des gens qui manipulent l'église à donner la dîme par la peur. Si tu ne donnes pas, Dieu va te tuer. Et ton toit, tu dors la nuit, les démons vont entrer, tu vas faire des accidents. En fait, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Et vous comprenez le coach, c'est la manipulation. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de poser un acte gouverné par la peur. Non. Je n'ai pas peur, mon frère. Ma vie ne dépend pas de ce que tu donnes. Je dis jamais. Vous comprenez de quoi je parle? Si ma vie dépendait de ce que tu donnais, alors je ne serais même pas en train d'avoir la possibilité de venir ici à pied. Tellement j'aurais même pas eu à manger. Alors vous me comprenez? Je suis sincère. Vous me comprenez? Je vous dis la vérité. Donc il faut aller au-delà de ça. Il faut, même si... Si t'arrives de faire une offrande et que tu le fais, c'est parce que j'ai foi en Dieu que tu le feras. C'est tout, c'est simple. Vous comprenez? Pas de manipulation. Pas de... Dis à ton voisin, pas de manipulation. Amen? Il n'y a pas de manipulation, non. Ok? Parce que Dieu ne bénit pas la manipulation. La manipulation génère la peur. Et tout ce qu'on fait sous la peur n'est pas béni par Dieu. Amen. Il faut agir avec foi, avec confiance, avec amour, amen, avec liberté de cœur, avec joie, hein, avec des pas de danse. On célèbre la grandeur de l'Éternel quand on donne. Même si au fond de toi, il y a un pincement par la foi, tu avances. Et tu te dis, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec, avec joie et avec des chants d'allégresse. Et ça génère en toi la foi. Amen. En l'Éternel, ton Créateur. Donc, il faut faire attention. Parce que vous finirez par confesser les pensées que vous avez entretenues. La confession. Ce que tu dis ressemble exactement à ce que tu as passé le temps à penser. Donc, on connaît un homme par les paroles qu'il dit, les paroles qu'il annonce. Vous voyez, il y a des gens, un homme qui aime, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas tendance à critiquer les autres, il n'a pas tendance à mal parler des autres, il est très prompt à pardonner, il est très prompt à oublier. Même quand on lui raconte quelque chose de mauvais concernant quelqu'un d'autre, tout de suite, il a une tendance qui est autre que celui qui a laissé, n'est-ce pas, les ténèbres envahir ses pensées.
Amen. Hein?
Et ça, c'est... Il dit à ton frère, j'espère que ce n'est pas de toi qu'il parle. Hein? Alors, 1 Samuel 17, versets 8 à 11.
Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël.
Reprends posément, s'il te plaît. 1 Samuel 17, versets 8 à 11.
Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Et leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne le suis-je pas, le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte.
Et Saül, reprend le dernier verset.
Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte.
Vous voyez, et qu'est-ce que le Philistin a fait? Il connaissait le combat spirituel. Il arrive, il est un géant. Il vient avec son armée et les deux armées sont en face. Il dit, ok, il dit à son roi, laisse-moi faire. Non simplement il était géant, mais il va utiliser une arme fatale, celle du diable, comme on l'a vu dimanche passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il avance. Il laisse les gens le voir. Les gens l'ont vu à sa vue déjà. Ils se sont dit, il doit être fort. Vous savez que la force n'est pas fonction de ta taille. Tu peux avoir 3 mètres de long et ne pas être fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors maintenant, il annonce des paroles et il dit que si quelqu'un de vous a le courage, qu'il vienne se battre avec moi. Et la Bible dit, quand le peuple d'Israël a entendu ces paroles, ils ont été dans la frayeur. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pris peur à partir des paroles qu'ils ont entendues. Et la suite de l'histoire est très amusante. Vous voyez, Saül est là avec son armée et puis tous les jours, il chante des cantiques. Dieu est grand, il est merveilleux, Dieu est puissant, le Dieu de nos pères, avant d'Abraham et le Dieu de Jacob, qui nous livre nos ennemis, qui nous livre nos ennemis. Amen, 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 amen. Et puis le garçon, il dit, arrêtez vos chants. Si quelqu'un est courageux, qu'il vienne. Et puis vous comprenez ce que je veux dire? Vous me comprenez? Si quelqu'un est courageux, qu'il vienne se battre. Et puis l'armée est là, ça lui dit non, chantons les cantiques. Amen, amen, amen. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Il délivra nos pères, il délivra nos pères. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça fait que maintenant, pendant 40 jours, ils sont là. Et vous allez vous rendre compte, après les cantiques, et la peur va tellement prendre racine dans le peuple, que maintenant, ceux qui vont commencer à faire la propagande de Goliath, ce ne sera plus l'armée adverse. C'est l'armée d'Israël qui va commencer à parler les louanges de Goliath. Quand David arrive, on dit, vous avez vu cet homme, mais c'est un géant. Il a lancé un défi au peuple de Dieu. Il a dit, si quelqu'un peut se battre avec lui, non. Le gars, il est puissant, le Morgan est fort. Non. Et puis, c'est leur ennemi. Mais c'est eux qui parlent de la grandeur de Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Jusqu'où la peur peut amener des gens à agir. Il commence à parler. Et non, il est puissant. Et celui qui pourra le vaincre? Si quelqu'un ose se battre avec lui, on va affranchir sa maison. Il veut épouser la fille du roi. Non, le gars, il est puissant. Non, il est fort. Tu as entendu pas? Non, il est fort. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand la peur commence à entrer dans nos cœurs, nous commençons à vanter les mérites de ce qui est notre adversaire. Vous entendez les gens parler, « Oh, mais non, tu sais, le VIH, personne, non. » Même les prières, non, les gens, ils racontent des histoires. « Tu peux, VIH, on peut pas, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui a le VIH et puis il guérit. » Pourquoi? Parce qu'on a entendu le rapport médical sur la maladie et la peur a été générée dans le cœur. Et ce que la parole de Dieu dit, on le met de côté. On commence à vanter les mérites. Quand on donne le rapport du FMI, quand on a annoncé ici qu'il y avait une décision à prendre après Accra 2, mais il faut voir ce que les gens disent. Oh non, la Côte d'Ivoire, ce sera en feu. Non, là, c'est terminé le régime. Ça, chacun donne son décret. Pourquoi? Parce que la peur. Même les journaux, quand vous les lisez, c'est des rapports de la peur. Mais il faudrait apprendre à ne pas se laisser influencer par les informations du naturel. Parce qu'au-delà du naturel, il y a le surnaturel. Au-delà des informations que nous avons, il y a la parole de Dieu. Et donc, il est important de ramener chaque rapport à la lumière de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est très important. Il ne faut pas laisser la peur vous tenir en captivité. Hein? Parce que Jésus lui-même a dit, à part ta peur, tu ne vas pas ajouter une seule coudée à ta vie. Okay? Pourquoi donc tu t'inquiètes du lendemain? Laisse le lendemain prendre soin de lui-même. Hein? Laisse le lendemain prendre soin de lui-même, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis ton créateur, c'est moi qui ai planifié les jours de ta vie et un seul cheveu de ta tête ne pourra pas tomber sans ma propre permission. Donc fais-moi confiance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il y a aussi la peur qui est générée par les expériences que nous avons. Nous avons fait une affaire, nous avons échoué une fois, nous avons échoué deux fois. Chaque fois je reçois des gens dans mon bureau, mes affaires ne marchent pas une fois, deux fois. Et puis on a l'impression que ça ne marchera plus jamais. Non, il ne faut pas se laisser influencer pas de tels sentiments. Non. Ce n'est pas parce que tu as connu l'échec hier que tu connaîtras l'échec aujourd'hui. Non. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. C'est important. Il ne faut pas se laisser influencer par les échecs du passé. Non. Tu as connu, tu as eu un fiancé et à la veille, il t'a laissé tomber. Tu as eu un deuxième. Et juste après, il a dit non, je ne veux plus de toi. Ce n'est pas pour autant que tu es maudite, non. Non, pas du tout. Il y a eu deux expériences qui n'ont pas marché, mais ces expériences ne doivent pas générer la foi en toi, la peur en toi. Non, il faut t'attacher à la parole. Et je dis chaque fois, oh non, quand on me dit, tel a prié pour moi, tel m'a fait, je dis, écoute, arrête-moi tes histoires du passé, mais à chaque jour suffit à peine, laisse passer ce passé. Maintenant, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau et il le fera. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il le fera. Donc, c'est important de ne pas se laisser embrigader ou alors emprisonner par les échecs que nous avons eus par le passé. Donc, vous voyez, c'est important. Maintenant, suivez-moi bien. Un autre exemple, c'est celui de Pierre. Pierre, avec les autres disciples, sont sur la barque. Et sur la barque, ils sont sur la barque et Jésus est de l'autre côté. Jésus commence donc à marcher sur les eaux. Et la Bible dit, à la vue du Seigneur Jésus, suivez-moi bien, à la vue du Seigneur Jésus, ils se sont dit, c'est un fantôme. Est-ce que vous me comprenez? Non, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est un fantôme. Ils ont conclu, c'est un fantôme. Et ils ont été dans la peur au point où ils ont commencé à pousser des cris. Vous vous rendez compte? Vous imaginez ça? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ces gens étaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus multiplier les pains. Ils venaient d'assister à un grand miracle de la puissance de Dieu. Jésus dit, avancez, j'arrive. Le maître lui-même à côté. Et donc Jésus, ayant terminé certainement son temps de prière et d'intimité avec Dieu, repart sur les eaux. Et les mêmes disciples qui ont vu les morts ressusciter, voient quelqu'un, ils voient un homme marcher sur les eaux et ils concluent, c'est un fantôme. Vous voyez, comment est-ce que Dieu peut être avec vous tous les jours et vous traversez une seule circonstance et vous commencez à donner plus de crédit à Satan qu'à Dieu? Non, c'est inadmissible. Tu es dans ta maison, tu dors, tu entends un bruit, tu dis certainement les sorciers sont entrés. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher chez toi, dans ta maison, toi enfant de Dieu? Pourquoi? C'est un fantôme. Ça veut dire que le fait qu'on est longtemps privé de Dieu, nous a donné plus d'avoir conscience de la puissance de Satan que de celle de Dieu. J'ai même vu des gens dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut être autant béni? Comment un tel pasteur peut avoir telle chose? Non, certainement c'est le diable, c'est un pacte. J'ai dit, my God, comment est-ce qu'on peut adorer un si grand Dieu et ne pas avoir la révélation de ce qu'il soit capable de faire? Mais ça c'est grave. C'est grave. C'est grave, mon frère. Tu ne peux pas adorer un si grand Dieu et puis avoir peur. Ou ne pas savoir ce qu'il soit capable de faire. J'ai tout autour de moi quand je regarde, quand je vois ces jeunes gens, quand je vous vois en face. Écoutez, en aucun moment, je ne vois la défaite, je ne vois l'échec, je ne vois le triomphe de la puissance des ténèbres. Mais je vois en face de moi, pour même tous ceux qui écoutent le message, je vois les futurs directeurs de société, des chefs d'entreprise, je vois des hommes bénis, je vois des femmes prospères, je vois des femmes qui enfin enseignent. Je le vois. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas comment, je le vois parce que je crois que Dieu soit capable de le faire. Je vois tous les dimanches les gens qui avaient une relation brisée avec Dieu, qui sont restaurés. C'est ce que je vois quand je prie à la maison. Amen. Je vois des familles bénies, je vois des gens qui ont le compte bancaire fourni. Je vois des gens à qui Dieu donne la force de prospérer. C'est ce que je vois. Je vois des femmes qui ont dit, le sort a été contre moi, le ciel m'a fermé les portes. Je les vois danser le joie dans leur maison en disant, Dieu m'a restauré, Dieu m'a béni, alléluia. Je vois des gens se lever, qui étaient malades, guéris. Je vois même des morts qui ressuscitent. Je vois des cancers qui s'en vont. Amen. Je vois des malades qui sont guéris. C'est ce que je vois, mon frère. Il n'y a pas de raison que je voie le contraire. Parce que je sers Dieu et c'est ce que ma parole... Sa parole me dit de croire et c'est ce que je crois. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il était certainement choqué. Il dit, ok. Et Pierre, audacieux, lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Moi, j'ai aimé sa réaction. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Bien que la réaction est une réaction de doute, parce qu'il dit si. Bon, imaginons un seul instant que ce soit le fantôme et qu'il dise viens. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Mais je trouve aussi que c'est quand même... Il dit si c'est toi. Mais si c'était un fantôme et puis il dit viens, Pierre serait allé dans l'eau et puis ce serait terminé pour lui. Vous me comprenez? Donc, en aucun moment, le fait de faire confiance à Satan ne va nous amener quelque part. Jamais. Et donc, le maître lui a dit viens et il a commencé à marcher sur les eaux. Mais je vais te dire, mon frère, la meilleure façon de vaincre la peur, c'est de confronter les pensées que tu as aux pensées de la parole. Si on te dit, telle chose arrivera venant de l'enfer, annule-les et confronte-les à la lumière de la parole de Dieu. Il faut tout de suite que tu poses un acte qui soit contraire à la frayeur que tu as eue. Pierre a marché sur les eaux. Et à quelques mètres, quand il a vu la tempête se lever, et la Bible dit quoi? Pierre a encore eu peur. C'est impensable. Et il s'est enfoncé. Vous voyez comment la peur peut paralyser quelqu'un qui a entendu la voix du maître. Quelqu'un qui a marché sur les eaux, il réussit encore à avoir peur. Malgré le miracle qu'il... Il est en train de vivre un miracle. Mais la peur réussit encore à le tenir captif. Et la Bible dit, lève-toi mon frère, lève-toi, viens, viens. La Bible dit que quand Pierre a commencé à s'enfoncer, qu'est-ce que Jésus a fait? Il tendit sa main. Et il a arrêté Pierre et il a soulevé. Ça veut dire quoi? Que Pierre, vas-y au fond de la salle, vas-y rapidement. Ok, vas-y, vite, vite. Ok, maintenant reviens. Marche. Pierre, pendant tout ce temps, était en plein miracle. Sur l'eau. Arrête-toi là. Là même, il n'a pas eu peur. Avance encore. C'est quand il était à un pas. Il a détourné le regard, il a regardé aux circonstances et non au maître qui a parlé. Il s'est enfoncé. La Bible n'a pas dit et Jésus courut vers lui pour l'arrêter. La Bible dit Jésus tendit la main. Ça veut dire qu'il était à un pas du but. Et c'est en ce moment que la tempête se levait. Laisse-moi te dire, mon frère, généralement quand la peur essaye de te prendre terriblement, le miracle de Dieu n'est plus loin. Il est juste à côté, juste proche de toi. Le miracle n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et chaque fois que je vais vivre une grande bénédiction, généralement, il y a une grande frayeur, il y a une grande secousse, il y a une grande attaque. Si 2006 a été pour toi une mauvaise année et c'est resté dans tes annales, c'est parce qu'il y avait 2007 où Dieu devait se manifester et se révéler dans ta vie pour laisser éclater sa gloire. C'est la raison pour laquelle le diable a envoyé la peur. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire en 2007. C'est parce que c'est ton année. où tu verras sa gloire, où tu verras son règne, où tu verras sa puissance, où tu verras sa visitation, où tu verras son miracle, où le ciel sera ouvert, où les anges descendront, où les greniers seront remplis, où tes affaires prospéreront, où ta guérison gémera, parce que l'Éternel ton Dieu est extrêmement fidèle. Alléluia. Amen. C'est important. Alors, homme frère, je voudrais clôturer en te disant ceci. Écoute-moi bien, j'ai appris, selon Psaume 49, verset 4, à méditer les pensées intelligentes de l'Éternel. Tu peux lire?
Psaume 49, verset 4. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens.
Ok, ma bouche va faire entendre des paroles sages,
et mon cœur a des pensées pleines de sens.
C'est-à-dire que ce que je dis, ce que je laisse dans mon cœur, c'est des pensées que l'Éternel a eues à mon égard. Et tu sais, il y a quelque chose qui m'a rendu extrêmement joyeux hier, nuit pendant encore, aux environs de minuit, 1h du matin, j'étais en train de rédiger ce message. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 14 à 15, « Tu seras affermi par la justice, bannis la peur, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Alléluia. Dis-leur que si on a des complots contre toi, ces personnes tomberont sous ton pouvoir. Parce que la peur et la frayeur ne s'approcheront même pas de toi. Ésaïe 54, verset 14 à 15. Et c'est un verset que tu dois répéter à la maison. Chaque matin, au moins pendant toute la semaine, répéter ce verset à la maison. Et non, la peur ne s'approchera pas de toi. Tu ne permettras même pas qu'elle s'approche de toi. Et tu dois changer tes confessions. Parce que c'est important. Tu changes tes confessions. Selon Matthieu 12, verset 34 à 37. Matthieu 12, verset 34 à 37. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur. Donc si tu as médité la parole de Dieu, ça c'est sûr que ta bouche finira par parler de l'abondance de ce que tu auras laissé dans ton cœur. Car la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. En quelque sorte, la condamnation que tu as sur ta destinée sont la résultante des paroles que toi-même tu as relâchées ou des paroles qui ont été dites à ton égard. C'est pour ça que je ne permets pas aux gens de décréter des paroles négatives à mon égard. Si quelqu'un me dit tu échoueras, juste en face de lui, j'ai dit c'est un mensonge car je sais que Dieu me réserve le succès. À aucun moment je n'échouerai. Il faut apprendre à réprimander les paroles de mensonge de Satan et décréter la parole de Dieu à ton égard. La parole est une semence. Quand elle est mise en terre, elle porte le fruit. Et la terre de cette parole, de cette semence, c'est ton cœur. Si tu laisses la parole descendre dans ton cœur, elle portera le fruit de la gloire. Elle portera le fruit du règne et du triomphe. Et tu te rendras compte que la peur n'aura pas d'emprise dans ta vie à cause des confessions de ta bouche. Amen. Ok, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans le Proverbe 18, verset 21, ma Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et c'est toi qui décides d'en manger les fruits. En quelque sorte, les fruits de la vie, de la bénédiction, de la joie, du bonheur, de la prospérité, de la santé, de l'élévation, de la gloire, c'est la résultante de ta bouche, de ce que ta bouche aura confessé, aura décrété, aura annoncé. C'est pour ça qu'il faut décréter des paroles de bienveillance à ton égard. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire ainsi parle l'Éternel. Tu connais déjà ce que l'Éternel dit dans sa parole. Tu peux la prendre toi-même et décréter ainsi parle l'Éternel et commencer à la dire sur ta vie. Et ces paroles arriveront en manifestation. Écoute-moi bien, tu n'es pas au hasard. Tu n'es pas la planification de l'enfer qui se met en marche. Tu n'es pas un accident programmé, mais tu es un sujet de gloire, un sujet de règne, une planification divine, un succès ambulant, une prophétie de Dieu que Dieu met en marche. Alléluia. Et donc la gloire de Dieu, elle est clairement la résultante des paroles que tu auras confessées. Et pour finir, je vais te dire mon frère, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous avons vaincu, pas nous allons échouer, mais nous avons vaincu, pas nous allons vaincre, mais nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Les paroles de notre témoignage. Alors ma bouche témoigne les bienfaits de l'Éternel. Ma bouche déclare la gloire de Dieu. Ma bouche témoigne la faveur de l'Éternel. Ma bouche déclare le miracle de Dieu. Alléluia! Amen! Ah, yes, Lord! Il y a des choses qui m'arrivent en 2007 qui sont la résultante des confessions que j'ai faites en 1997. Même 10 ans plus tard, tu verras ces choses. Je t'assure, tu le verras. Tu verras ces choses se faire. Je me rappelle des confessions que j'ai faites avant. Je les ai décrétées, les gens me prenaient pour un fou. J'ai dit non, ce qui me concerne, voici ce qui va se faire. Même cet endroit, c'est la résultante d'une confession de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est la confession. Je n'ai pas pris appui avec une banque, un crédit à une banque. Pas aller demander, je suis jamais allé demander quelque chose à quelqu'un. Jamais je ne le ferai, parce que je crois que mon Dieu est fidèle. Et il me dit dans sa parole qu'il va faire des choses qui vont étourdir l'entendement de ceux qui vont entendre. C'est-à-dire que quand les gens entendront ce que Dieu a fait, ils seront étourdis, ils vont tomber. C'est-à-dire que tellement le témoignage sera grand qu'ils vont perdre connaissance. Parce qu'ils auront entendu le miracle de Dieu à ton égard. Je le crois, je le déclare. Alléluia! Et Dieu est extrêmement... Et Dieu